Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Je vous propose aujourd'hui de plonger dans l'océan, plus précisément dans la mer céleste, cette partie du ciel où sont regroupées des constellations ayant tout un point commun, ce sont des constellations maritimes. Le poisson, le poinçon austral et la baleine. Alors prenez votre masque et votre tuba, c'est parti. La constellation des poissons est une constellation du zodiaque. Elle est observable surtout à l'automne, puisqu'elle est à ce moment-là à l'opposé du soleil, donc bien visible. Pour savoir quand est le meilleur moment pour observer une constellation du zodiaque, il faut prendre l'opposé de la date du signe astrologique. En effet, en astrologie, une constellation occupe une durée d'à peu près un mois. Pour les poissons, c'est du 20 février au 21 mars. Ça veut dire que le soleil est en poisson à ces dates. Ou en tout cas, il l'était il y a 2000 ans. Donc la constellation n'est pas vraiment observable à ces dates, car la partie du ciel concernée nous apparaît de jour. Elle est donc cachée par la lumière du soleil. En revanche, 6 mois plus tard, quand la Terre a fait son chemin autour du soleil, c'est-à-dire une demi-révolution, la Terre est alors entre le soleil et la constellation. Et donc alors, c'est la nuit, quand nous tournons le dos au soleil, que nous sommes face à la constellation. De bien meilleures conditions d'observation, bien sûr. Mais souvenez-vous qu'à cause de la précession des équinoxes, ce déplacement de l'axe de rotation de la Terre, les dates fixées par l'astrologie il y a 2000 ans se sont décalées, d'à peu près un mois. Actuellement, le Soleil est en poisson du 15 mars au 15 avril. Son observation est donc idéale 6 mois après, c'est-à-dire de mi-octobre à mi-novembre. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos poissons. Située en dessous d'Andromède et du carré de Pégase, la constellation des poissons est constituée d'une multitude d'étoiles peu brillantes. Il faut donc un regard averti pour tenter d'y reconnaître des poissons. Comme toutes les constellations du zodiaque, les poissons sont mentionnés sur des tablettes en Mésopotamie, à peu près au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais les données utilisées pour créer ces tablettes remontent au 13e ou 12e siècle avant Jésus-Christ. Cependant, les Babyloniens y voyaient 3 figures distinctes. Anunit, déesse au corps de poisson, et l'hirondelle. Et enfin, Zibatou, les queues des deux poissons unies l'une à l'autre par un ruban. On n'est quand même pas très loin de la représentation actuelle de la constellation. L'auteur latin Higinius relate l'histoire d'Aphrodite, Vénus, et de Eros, Cupidon, surpris en Syrie au bord de l'Euphrate par Typhon. Les deux divinités se seraient alors jetées dans le fleuve et métamorphosées en poissons pour échapper aux monstres, non sans prendre le soin auparavant de relier leurs queues afin de pouvoir rester ensemble. La constellation des poissons est située sous Andromède et Pégase. Elle occupe l'intérieur du triangle d'automne, dont elle traverse les 3 côtés au niveau de leur milieu. Pour mémoire, le triangle d'automne ou le triangle des nuits d'automne est un astérisme à cheval sur l'équateur terrestre et formé par 3 étoiles relativement brillantes que sont Amal de la constellation du Bélier, Divda de la constellation de la Baleine et Alpheras de la constellation d'Andromède. L'intérieur du triangle est donc occupé par la constellation des Poissons et le triangle permet de bien repérer cette constellation. Elle coupe les 3 côtés à peu près en leur milieu. La constellation a une forme de grand triangle. 2 pointes comportent des formes un peu plus larges, les deux poissons. Et la 3e pointe est la corde qui relie les deux poissons. Elle est appelée Alrecha. Le premier poisson est situé à 10 degrés au sud de la bordure du grand carré de Pégase. C'est une structure ovale, assez bien marquée mais peu lumineuse. Si cet anneau est visible, on peut également deviner un alignement qui en part vers l'est et suit un arc de cercle en s'incurvant vers le sud, jusqu'à Alpha des poissons qui est le nœud des deux cordes. L'autre poisson est beaucoup plus difficile à repérer car sa forme est moins nette. Il se confond avec le bras sud d'Andromède. Quand ce bras est bien visible, on peut le voir se terminer sur un alignement de 3 faibles étoiles, dont la plus au sud est le coude de la corde, immédiatement à l'est du grand carré. Partant de ce coude, on trouve un autre petit alignement qui limite le poisson de l'est, qui ressemble un peu à un triangle. Dans l'autre sens, le prolongement du bras de Cassiopée indique la direction générale de la corde qui file jusqu'à Alpha des poissons, c'est-à-dire le nœud des deux cordes. She said she loved me 'cause I play guitar. That's okay, I need a love.
hear me complain.
Il existe deux constellations qui se nomment Poissons. En plus de la constellation du zodiaque, il existe aussi la constellation du poisson austral, qui, comme son nom l'indique, est une constellation de l'hémisphère sud, mais qui peut être vue depuis nos latitudes si on a un horizon bien dégagé. Le poisson austral est situé sous le Verseau. Il se repère à partir de son étoile la plus brillante, Fomalhaut, qui se situe à l'intersection de deux grands alignements. Un alignement à très longue distance entre Archénar, la pointe du fleuve Éridan au sud, et le Cygne très loin au nord. Cet alignement passe par les ailes du Cygne, passe par les pieds de Pégase, la Capricorne, pour atteindre Fomalhaut et de là, Achénar du fleuve Éridan. Un autre alignement qui part de Aldébaran du Taureau, passe par la tête et la queue de la baleine, touche Fomalhaut et de là se prolonge sur la tête du Centaure et l'alignement du bas du Serpentaire pour finir sur Arcturus du Bouvier. Fomalhaut veut dire la bouche du poisson en arabe. Elle est l'étoile la plus brillante de la constellation du poisson austral. Elle a une magnitude apparente de 1,17. En fait, c'est la 17e étoile la plus brillante du ciel. Fomalhaut est une étoile blanche, relativement proche, puisque à 24 années-lumière. Elle est entourée d'un immense disque de poussière qui s'étend sur 4 fois la distance du Soleil à Pluton. Une image prise par coronographie par le télescope spatial Hubble est très impressionnante et fait ressembler Fomalhaut à l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. La coronographie est une technique en astronomie qui consiste à reproduire le phénomène céleste des éclipses totales. Le coronographe permet en effet de masquer la partie centrale de l'étoile. Ainsi, seule la couronne de l'étoile observée apparaît, car elle n'est plus noyée par la lumière de la photosphère de l'étoile. L'instrument n'est plus ébloui. Passons maintenant à la constellation de la Baleine. C'est une très grande constellation, mais ne contenant pas beaucoup d'étoiles brillantes, elle reste peu connue. Dans la mythologie, cette constellation est associée au Cétus, le monstre marin qui devait dévorer Andromède avant qu'elle ne soit sauvée in extremis par le héros Persée. Mais attention, Cétus n'était pas forcément une baleine. Le mot Cétus représente le terme de monstre marin. En fait, ça peut très bien être un poulpe géant. La constellation se situe sur un alignement qui part d'Aldébaran, du Taureau, et atteint Fomalhaut du Poisson austral. Cet alignement passe sensiblement par les deux étoiles les plus brillantes de la baleine, que sont Alpha Cetus et Beta Cetus, au milieu desquelles se trouve Mira, qui est une étoile variable, mais qui, quand elle est à son maximum, est la plus brillante de la constellation. La constellation de la baleine n'est pas très grande, mais elle contient peu d'étoiles brillantes. Non, la constellation de la baleine est très grande, mais comme elle contient peu d'étoiles brillantes, sa forme n'est pas très facile à tracer. Initialement, le monstre marin qu'est Cétus était représenté comme une sorte de grand poulpe, avec une bouche armée d'un bec, marquée par Alpha Cétus, et de grandes tentacules, marquées par Beta Cétus. C'est cette représentation qui a donné les noms retenus par l'astronomie arabe. De nos jours, le monstre est généralement vu De nos jours, le monstre est généralement devenu une baleine. Et sa représentation est inversée. Alpha marque la queue de la baleine et bêta sa bouche. Mais dans un cas comme dans l'autre, cette forme est très peu suggestive. Il vous faudra des cartes du ciel avec les constellations tracées pour vous imaginer sous les flots. Mira est certainement l'étoile la plus intéressante de cette constellation. Située à environ 400 années-lumière, Mira, la merveilleuse, est la première étoile variable qui ait été découverte, en 1596. Sur une période de 330 jours, elle varie entre la magnitude 2, c'est-à-dire très facilement visible à l'œil nu, à la magnitude 10, qui la rend invisible. Il semble que la variabilité de Mira était connue dans la Chine ancienne, à Babylone et dans la Grèce antique. Ce qui est certain, c'est que cette variabilité a été observée par l'astronome David Fabricius à partir du 3 août 1596. Observant ce qu'il pensait être la planète Mercure, il avait besoin d'une étoile de référence pour comparer les positions et choisit une étoile de magnitude 3 non remarquée précédemment. Le 21 août, cependant, elle avait augmenté d'une magnitude, puis en octobre, elle avait décru à nouveau. Fabricius supposa que c'était une nova, car elle était devenue invisible. Mais il la revit le 16 février 1609 et conclut donc que c'était une étoile variable. Cette variabilité s'explique car Mira est une étoile en fin de vie. Ayant épuisé ses réserves d'hélium, elle a fusionné, qui ont fusionné en carbone et en oxygène. De ce fait, Mira est une étoile instable, dont les changements de luminosité sont causés par des modifications périodiques de la taille de l'étoile. À court terme, à l'échelle astronomique bien entendu, on peut parler de plusieurs millions d'années quand même, son enveloppe externe devrait être soufflée, formant une nébuleuse planétaire, tandis que le cœur de l'étoile se réduira à son noyau et deviendra une étoile naine blanche, qui perdra progressivement sa chaleur et son éclat. Il faut donc bien la surveiller, car un tel événement pourrait nous en apprendre beaucoup plus sur le cycle de vie des étoiles.